بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، on commence aujourd'hui une épître concise de l'éminent savant, le réformateur de l'appel au tawhid, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Cet éminent savant est connu pour avoir accordé une grande importance à l'appel au tawhid tout au long de sa vie. Et pour confirmer cela, il suffit d'observer ses livres et de constater que le principal sujet abordé dans ses différents ouvrages est quoi ? C'est l'unicité, at-tawhid, qui est l'appel des messagers, alayhimus salatu wassalam. Il a traité ce sujet en détail dans son célèbre livre, Kitab at-tawhid, le livre de l'unicité, qui est le livre de référence sur ce sujet et que les savants ne cessent d'enseigner jusqu'à nos jours. Et il accorda également une attention particulière à ce sujet dans de nombreuses épîtres plus concises qui peuvent être comprises par les gens du commun et dont profitent grandement les étudiants en sciences. À l'exemple du livre Les Trois Fondements ainsi que Les Quatre Règles, et parmi ces épîtres, il y a également celle-ci que nous allons étudier, incha'Allah ta'ala, et qui est intitulé « Les six fondements ». Ces six fondements font partie des bases essentielles de la croyance du musulman, par lesquelles les gens de la sunna se distinguent des gens de l'égarement. Ils sont en fait une explication et un éclaircissement de la croyance des pieux prédécesseurs, ainsi que de ce qui s'oppose à cette croyance et la contredit. C'est donc en quelque sorte un bref exposé du ménage salafi dont les sources sont le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. Ces fondements, ils sont donc d'une importance immense. Et afin d'avoir un aperçu global sur le contenu de cette épître, nous allons les énumérer ici, incha'Allah ta'ala. Le premier fondement est la sincérité, ou le culte exclusif, et l'exposé de son contraire qui est l'association, al-shirk. Le deuxième fondement est l'union dans la religion et l'interdiction de la division dans celle-ci. Le troisième fondement est l'écoute et l'obéissance aux détenteurs de l'autorité. L'écoute et l'obéissance aux détenteurs de l'autorité. Le quatrième fondement est l'exposé de ce qu'est la science et de qui sont les savants, ainsi que ceux qui s'apparentent à eux alors qu'ils n'en font pas partie. Le cinquième fondement est l'explication de qui sont les alliés d'Allah. Qui sont les alliés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Enfin, le sixième fondement est la réfutation de l'ambiguïté établie par le diable pour que les gens délaissent le Coran et la Sunna. Vous voyez donc, mes frères, que ces fondements sont très importants et qu'il mérite de notre part une grande attention. C'est pour cela que nous allons consacrer une assise à chacun d'entre eux, incha'Allah ta'ala, en commençant aujourd'hui par l'introduction et le premier fondement, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous accorder la réussite et la rectitude dans cela. L'auteur, le shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, a dit « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, on compte parmi les choses les plus étonnantes et les signes démontrant la puissance d'Allah, le souverain, le grand dominateur, six fondements qu'Allah a exposés clairement au commun des gens, bien plus que l'on ne se l'imagine. Malgré cela, beaucoup d'intelligents dans ce monde et de gens doués de raison parmi les enfants d'Adam sont tombés dans l'erreur à leur sujet, à l'exception d'un petit nombre. » Il a commencé son livre, rahimahullah ta'ala, par la basmala, qui est le fait de dire « Bismillahir Rahmanir Rahim » au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et il a fait cela à l'exemple du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui commence par la basmala, mais aussi à l'exemple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui commençait ses écrits et ses lettres par la basmala. L'auteur a ensuite dit, on compte parmi les choses les plus étonnantes et les signes démontrant la puissance d'Allah, le souverain, le grand dominateur, six fondements qu'Allah a exposés clairement au commun des gens, bien plus que l'on ne se l'imagine. Malgré cela, beaucoup d'intelligents de ce monde et de gens doués de raison parmi les enfants d'Adam sont tombés dans l'erreur à leur sujet, à l'exception d'un petit nombre. Dans cette introduction, l'auteur, rahimahullah, il s'étonne qu'une grande partie de la création se soit égarée au sujet de fondements qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clairement exposé dans son livre. Ces six fondements que l'on vient de citer, ils sont clairement exposés dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme nous allons le voir lors de notre étude incha'Allahu ta'ala. Malgré ça, nombre de personnes sont tombées dans l'erreur à leur sujet. Certains s'y sont clairement opposés et d'autres les ont transgressés et ainsi de suite. Et ce qu'il y a de plus étonnant encore, c'est qu'il y a parmi eux, comme l'a dit l'auteur, beaucoup d'intelligents de ce monde et de gens doués de raison parmi les enfants d'Adam, à l'exception d'un petit nombre. Et on tire de ceci plusieurs bénéfices. Le premier est que la guidée, elle ne s'obtient pas par l'intelligence et la raison, mais c'est seulement une grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à qui il veut parmi ses serviteurs. Et combien d'intelligents se sont égarés du droit chemin et leur intelligence ne leur fut d'aucun profit. Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit, il se peut qu'un homme fasse partie des gens les plus intelligents, mais qu'Allah le prive de la vue des choses les plus évidentes. Et il se peut qu'un homme fasse partie des gens les plus sots et les plus faibles, mais qu'Allah le guide par sa permission vers la vérité sur laquelle les gens divergent. Puis il a dit, rahimahullah ta'ala, le serviteur a certes besoin qu'Allah lui fasse aimer la foi et qu'il lui fasse détester la mécréance. Sans cela, il se peut qu'il connaisse la vérité, mais ne l'aime pas et ne la veuille pas, et qu'il fasse ainsi partie des obstinés incroyants. Ceci est le sens rapproché et résumé de la parole de Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous priver de ses bienfaits et de nous guider sur son droit chemin. Le deuxième bénéfice que l'on tire de cette introduction est que le grand nombre n'est pas pris en considération. Et que le grand nombre n'est en aucun cas une preuve. Bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala a souvent blâmé dans son livre le grand nombre. Il a dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Et la plupart des gens ne sont pas croyants, malgré ton désir ardent. Et il a dit subhanahu wa ta'ala, وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Et dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala évoque le fait que la majorité des gens sont pervers, que la majorité des gens ne raisonnent pas, que la majorité des gens sont mécréants, et ainsi de suite. Tout ceci nous prouve que la majorité et le grand nombre ne sont en aucun cas un gage de vérité. En contrepartie, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné en bien le petit nombre. Il a dit subhanahu wa ta'ala, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Ainsi que dans d'autres versets. Ceci nous prouve donc clairement que le grand nombre n'est en aucun cas une preuve de la vérité. Le nombre de suiveurs d'une personne ou d'une idéologie ou autre n'est donc pas une preuve que cette personne est sur la vérité ou encore que cette idéologie est authentique. Mais le musulman, il ne doit prendre en considération que les preuves du Coran et de la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, et ce afin de distinguer le vrai du faux, même si la vérité est peu suivie. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a ensuite dit, le premier fondement est la sincérité, ou bien le culte exclusif, voué à Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans associé, et l'exposé de son contraire, qui est l'association à Allah. Et la plus grande partie du Coran expose clairement ce fondement sous divers aspects, dans un langage compris par le plus simple d'esprit d'entre les gens ordinaires. Ensuite, lorsqu'il est arrivé à la majorité de la communauté ce qui lui est arrivé, le diable leur a présenté le culte exclusif comme étant une façon de déprécier les saints et de négliger leurs droits. Et il leur a fait paraître l'association à Allah
sous l'apparence de l'amour des saints et de leur suivi. Le premier fondement est donc la sincérité, et c'est le plus important des fondements sur lesquels repose la croyance du musulman. Et la sincérité, ou le culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que l'homme ne recherche pas son adoration qu'à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et à atteindre la demeure de ses bienfaits, c'est-à-dire le paradis. Le serviteur, il est donc sincère envers Allah dans son intention, sincère envers Allah dans son amour, sincère envers Allah dans sa vénération, sincère envers Allah en apparence, aussi bien qu'en secret. Il ne recherche par son adoration que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et à atteindre le paradis, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre « قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ » dit « En vérité, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui nous l'associer, et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. » Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ » Et revenez, repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à lui. Et il a dit subhanahu wa ta'ala « وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ » Et votre Dieu est un Dieu unique, il n'y a pas de Dieu à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. « فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا » Votre Dieu est certes un Dieu unique, soumettez-vous donc à lui. Et c'est avec cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé l'ensemble des messagers alayhimus salatu wassalam. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala « وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ » Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager sans que nous ne lui ayons révélé « Point de Dieu en dehors de moi, adorez-moi donc. » Et de la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié cela dans son livre, comme l'a dit l'auteur, sous divers aspects dans un langage compris par le plus simple d'esprit d'entre les gens ordinaires. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a aussi clarifié dans sa sunna. Il est venu sallallahu alayhi wa sallam avec la concrétisation du tawhid, la concrétisation de l'unicité, sa purification et son assainissement de toute souillure. Et il a barré toute voie pouvant mener à l'ébréchement de ce tawhid ou à son affaiblissement. Un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « C'est selon la volonté d'Allah et ta volonté. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors dit, « As-tu fait de moi un égal à Allah ?» Mais c'est selon la volonté d'Allah seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc blâmé cet homme pour avoir joint sa volonté à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala par une conjonction, c'est-à-dire par le mot « et », qui suppose l'égalité entre eux. Et il a considéré cela comme une manière de prendre un égal à Allah, comme une manière de prendre un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a considéré cela comme étant une forme d'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quiconque jure par autre qu'Allah a certes mécru ou associé. Et ce car le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une manière de vénérer celui par qui on jure d'une façon par laquelle seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être vénéré. Et lorsqu'un groupe de personnes est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit « Ô messager d'Allah, ô toi le meilleur d'entre nous et fils du meilleur d'entre nous, ô toi notre maître et fils de notre maître », il leur a dit sallallahu alayhi wa sallam « Ô vous les gens, dites ce que vous voulez dire, mais que le diable ne vous charme pas. Je suis Mohammed, le serviteur d'Allah et son messager. Je n'aime pas que vous m'éleviez au-dessus de la place qu'Allah m'a donnée. Je n'aime pas que vous m'éleviez au-dessus de la place qu'Allah m'a donnée. » Il a dit cela, sallallahu alayhi wa sallam, afin d'avertir sa communauté contre l'exagération à l'égard des pieux, alors que lui, il est réellement le meilleur des hommes, sallallahu alayhi wa sallam. Et l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a même consacré un chapitre entier à cela dans le livre de l'unicité, dans Kitab al-Tawhid, qu'il a intitulé « Chapitre de ce qui est rapporté » au sujet des efforts du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour protéger le domaine sacré du Tawhid et pour barrer toutes les voies menant au shirk. et pour barrer toutes les voies menant à l'association. Et de la même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exposé la sincérité et l'a clarifié dans son livre, il a exposé son contraire qui est l'association, qui est le shirk. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Et il a dit subhanahu wa ta'ala « Wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a » Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Et il a dit subhanahu wa ta'ala « وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ » Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du taghout ». Et les versets à ce sujet, ils sont nombreux, tout comme les hadiths. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque rencontre Allah sans ne lui avoir rien associé entrera au paradis. Et quiconque le rencontre en lui ayant associé quoi que ce soit » entrera en enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah, d'après Jabir ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhu. Et l'association, al-shirk, est de deux sortes. La première sorte est l'association majeure, celle qui fait sortir de la religion. Et c'est toute association déterminée par le législateur et qui s'oppose totalement au tawhid. Comme le fait qu'il voue une chose parmi les différentes sortes d'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de prier pour autre qu'Allah, ou de sacrifier pour autre qu'Allah, ou d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala comme l'habitant d'une tombe ou un absent pour le secourir d'une chose que seule une personne présente est capable d'accomplir. Et les différentes sortes d'associations majeures sont connues dans ce qu'ont écrit les gens de science. La deuxième sorte est l'association mineure, et c'est toute œuvre parmi les paroles et les actes sur laquelle le législateur a employé le terme association, mais qui ne s'oppose pas au tawhid de façon absolue. On compte parmi les exemples d'associations mineures le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car celui qui jure par autre qu'Allah et qui ne croit pas qu'autre qu'Allah a la même grandeur qu'Allah, alors celui-ci a commis de l'association mineure. Par contre, s'il vénère cet autre par lequel il jure, de la même manière qu'il vénère Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci fait partie de l'association majeure et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On compte également parmi les exemples d'associations mineures l'ostentation, qui est une chose très dangereuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son sujet « Ce dont j'ai le plus peur pour vous est l'association mineure ». Il fut alors interrogé à son sujet et répondit « C'est l'ostentation ». Et l'ostentation, elle peut même atteindre le degré d'association majeure. En effet, l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, a mentionné comme exemple d'association mineure l'ostentation minime. Il a précisé l'ostentation minime. Ceci prouve que l'ostentation abondante, elle peut atteindre l'association majeure. Comme c'est le cas de ceux dont toutes les œuvres sont accomplies par ostentation et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est important de savoir que parmi les savants, certains ont soutenu que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Ils ont soutenu que ce verset englobe toute forme d'association, même si elle est mineure. Il est donc obligatoire pour le musulman de prendre garde à l'association, qu'elle soit majeure ou mineure, car ses conséquences sont néfastes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Innahu man yushrik billah » فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ Et quiconque associe à Allah, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu et pour les injustes, pas de secoureur. Si le paradis est interdit aux polythéistes, c'est qu'il sera éternellement en enfer. Et il n'y a pas de doute que celui qui a associé à Allah subhanahu wa ta'ala, il sera parmi les perdants dans l'au-delà. قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ Dit les perdants sont ceux qui, au jour de la résurrection, auront causé la perte de leurs propres âmes et celle de leur famille. C'est bien cela la perte évidente. Il a causé la perte de sa propre personne, car il n'en a pas profité, et il l'a mené au feu. Et il a causé la perte de sa famille, car s'ils étaient croyants, ils seront au paradis. Il ne sera donc pas avec eux et ne profitera pas d'eux. Et s'ils sont au feu non plus, car à chaque fois qu'une communauté entrera en enfer, elle maudira celle qui l'aura précédée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et sachez mes frères que l'association est quelque chose de très subtil et que l'ami intime du tout miséricordieux, l'imam de Hunafa, Ibrahim alayhi salam, en a eu peur pour lui-même ainsi que pour sa descendance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَا أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ et éloigne-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. C'est ainsi que sont les pieux. Ils ont peur pour leur propre personne. Pourquoi? Car ils savent que leurs cœurs sont entre deux des doigts d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah les retourne comme il veut. Ibn Abi Mulaika, rahimahullah ta'ala, a dit, j'ai rencontré 30 des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient tous peur de l'hypocrisie pour leur propre personne. Ils avaient tous peur de l'hypocrisie pour leur propre personne. Le prince des croyants, Umar ibn al-Khattab, a dit à Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu ta'ala anhumah, lui, Hudhayfa, qui était celui à qui le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait confié le nom des hypocrites. Il lui avait confié le nom des hypocrites. Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, lui a alors dit, je t'adjure par Allah, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a-t-il nommé parmi les hypocrites qu'il t'a nommé? Ceci est la parole de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a annoncé la bonne nouvelle du paradis, Umar, radiyallahu ta'ala anhu, il a eu peur pour lui-même. Il a eu peur que cela soit quoi? Que cela soit d'après ce qui est apparu de ses œuvres au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, durant son vivant. Par conséquent, nul ne se sent à l'abri de l'hypocrisie, si ce n'est un hypocrite. Et nul n'a peur de l'hypocrisie, si ce n'est un croyant. Et le serviteur, il doit donc veiller à être sincère et à lutter contre son âme pour cela. Certains prédécesseurs ont dit, je n'ai pas combattu mon âme pour une chose comme je l'ai combattu pour la sincérité. Je n'ai pas combattu mon âme pour une chose comme je l'ai combattu pour la sincérité. Ceci nous prouve que ce n'est pas une affaire simple pour le serviteur de se prémunir de l'association. Mais c'est au contraire une affaire très difficile. Et tu dois pour cela lutter pour vouer l'ensemble de tes œuvres exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas les accomplir par ostentation. Tu ne dois pas les accomplir pour rechercher les éloges des gens ou leurs compliments. Mais tu dois œuvrer seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala en recherchant son agrément. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ses serviteurs sincères et de nous préserver de toute forme d'association. Ce fondement, la sincérité, c'est donc la chose la plus immense et la plus importante qu'Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué dans son livre et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clarifié dans sa sunna. Et ce car le tawhid est le fondement de l'islam, c'est le fondement de la religion sur lequel repose l'ensemble de nos œuvres. Et l'association, elle annule ce fondement, elle le corrompt et elle le rend inexistant, car le tawhid et le shirk sont deux choses contraires et opposées qui ne peuvent en aucun cas se réunir et s'assembler. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a exposé ce fondement dans son livre et qu'il a clarifié cela dans l'ensemble des sourates du Coran. Et les gens, ils lisent le Coran, ils répètent le Coran, mais peu d'entre eux prêtent attention à cette clarification. C'est pour cela que beaucoup de gens lisent le Coran, mais malgré cela, tu les vois quoi? Tu les vois tomber dans le shirk et tu les vois délaisser le tawhid. Alors que ce sujet est clair dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que dans la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais les gens, ils suivent les coutumes ou ils suivent ce sur quoi ils ont trouvé leurs ancêtres ou les gens de leur pays. Beaucoup d'entre eux, ils ne cherchent même pas à réfléchir ou à méditer sur le Coran, ni à vérifier si ce sur quoi sont les gens est correct et conforme au Coran ou non. Ils lisent le Coran, ils s'y opposent par leurs agissements et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils préfèrent suivre aveuglément leur père ainsi que leurs ancêtres et pensent que lire le Coran ne sert qu'à obtenir la baraka, ne sert qu'à obtenir la bénédiction et la récompense de la récitation. Alors que l'objectif est en réalité de méditer sur ces versets et de mettre en pratique ce qui se trouve comme enseignement dans ce Coran. Mais malheureusement, peu de gens lisent le Coran avec cette intention. Ils ne le lisent que pour obtenir la bénédiction, pour le psalmodier ou encore le réciter sur les malades. Quant au fait de le lire pour le mettre en pratique ou pour le méditer ou pour vérifier si la situation dans laquelle nous sommes est conforme aux enseignements du Coran ou non, alors très peu de personnes le font. Alors très peu de personnes accomplissent cela. C'est pour cela que tu vois que la situation de nombreuses personnes, ainsi que leurs œuvres, n'ont rien à voir avec le Coran. Peu de gens pensent à se réformer en lisant le Coran. Et si un réformateur ou un prêcheur essaye de les faire changer afin qu'ils améliorent leur situation, tu les vois se révolter contre lui. Ils l'accusent d'égarement, ils l'accusent d'être sorti de la religion, ou encore d'être venu avec une nouvelle religion ou d'autres accusations semblables. Et c'est ce qui est arrivé à l'auteur de ce livre lui-même, rahimahullahu ta'ala. Lorsqu'il a appelé les gens à revenir au Coran et à ses enseignements, lorsqu'il les a appelés à délaisser leurs coutumes et le suivi aveugle, ils se sont révoltés contre lui et ils l'ont déclaré innovateur et pervers. Certains l'ont même déclaré mécréant et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et jusqu'à nos jours, nombre de gens parmi les gens de l'innovation et de l'égarement continuent de propager ces fausses accusations en voulant ainsi éloigner les gens de l'appel du Cheikh, rahimahullahu ta'ala, alors que son prêche n'est autre que le prêche sur lequel était le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il prononce donc de fausses accusations à son encontre, mais cela ne lui nuit point et il n'y a rien d'étrange en cela. En effet, il fut dit encore pire que cela sur les prophètes, alayhimu salatu wa salam. Lorsque les prophètes ont voulu réformer leur communauté et leur faire délaisser l'adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, leur communauté les ont traités de menteurs, les ont traités de sorciers, les ont traités de fous, et ainsi de suite. Donc si les gens ont dénigré les prophètes, alayhimu salatu wa salam, et ont prononcé de fausses accusations à leur encontre, alors que dire des savants et des prêcheurs après eux? Il n'y a pas de doute qu'ils devront aussi faire face à ces choses, mais cela ne diminue en rien leur récompense. Au contraire, ceci ne fait qu'accroître leur récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces paroles et ces fausses accusations, elles ne nuisent qu'à celui qui les prononce et celui qui les écrit, car tout cela se retournera contre lui. Quant aux savants sincères et aux prêcheurs sincères, ce qui est dit sur eux, cela ne leur nuit pas, mais cela ne fait que les élever en degré et accroître leur récompense, bi'ihnillahi ta'ala. Et ils ont comme prédécesseurs et comme exemple les prophètes, alayhimu salatu wa salam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusuli min qablik. » Il ne t'est dit que ce qui a été dit aux messagers avant toi. Il ne t'est dit que ce qui a été dit aux messagers avant toi. Et il est important de savoir, mes frères, que toute personne qui dénigre les pieux, et notamment les savants de la communauté, toute personne qui les dénigre et les accuse de ce dont ils sont innocents, alors il n'y a pas de doute que cette personne est atteinte de la maladie des ambiguïtés et de la maladie des passions. Car la critique des savants pieux est une caractéristique des gens de l'innovation. Et c'est un signe que tu tires directement de la bouche de ceux qui dénigrent les savants et les rabaissent. Ainsi, si tu entends une personne dénigrer les savants de la sunna, ancien ou contemporain, alors sache que cette personne fait partie des gens de l'innovation. En faisant cela, il a manifesté la perversion de sa langue et la perversion de son cœur, car dénigrer les savants fait partie des caractéristiques des gens des passions et des innovateurs. Cependant, il ne faut pas confondre entre cela et la mise en garde fondée qu'accomplissent les gens de science, les savants de la communauté, contre les gens de l'innovation et de l'égarement. Ceci ne rentre pas dans ce sujet. La sincérité est donc le premier et le plus important de ces six fondements que l'auteur a évoqués, rahimahullah, et qui font partie des choses qu'Allah a clairement exposées dans son livre et qui peuvent être comprises par le commun des gens. Alors que dire de ceux qui prétendent à la science? Alors que dire de ceux qui prétendent à la science? L'auteur, rahimahullah, ensuite dit, « Ensuite, lorsqu'il est arrivé à la majorité de la communauté, ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire lorsque l'ignorance et ses causes se sont propagées. Lorsque l'ignorance et ses causes se sont propagées. Et on compte parmi les plus grandes causes de l'ignorance, le manque de savants et d'étudiants en sciences, appelant au Coran et à la Sunna, ainsi que la multitude de ceux qui se mettent en avant dans le prêche et s'affilient à la science, alors qu'ils ne sont pas aptes à cela. Certains parmi eux ont de la science, mais ils ont dévié et se détournent donc de la vérité. D'autres sont des ignorants, mais ils se prennent pour des savants. Tu les vois alors ordonner des choses, en interdire d'autres, faire des fatwas, faire des séances de questions-réponses et enseigner alors qu'ils sont dans l'ignorance et l'égarement. Wallahu al-musta'an. Il n'y a pas de doute que ces personnes corrompent beaucoup plus qu'ils ne réforment et qu'ils nuisent aux gens au lieu de leur profiter. Ils portent donc un lourd fardeau en faisant cela, car ils porteront la charge de leur égarement ainsi que la charge de l'égarement de tous ceux qu'ils ont égarés, de l'égarement de tous ceux qu'ils ont égarés. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a ensuite dit, lorsqu'il est arrivé à la majorité de la communauté ce qui lui est arrivé, Le diable leur a présenté le culte exclusif comme étant une façon de déprécier les saints et de négliger leurs droits. Et il leur a fait paraître l'association à Allah sous l'apparence de l'amour des saints et de leur suivi. Le diable, il a trompé beaucoup de gens en leur montrant l'association à Allah comme étant une manière de manifester leur amour envers les gens pieux et vertueux. Et ceci est en réalité de l'exagération à l'égard des pieux et une cause de perdition pour les gens, car cela les éloigne du chemin droit et de la croyance authentique. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a certes averti contre cela lorsqu'il a dit « Prenez garde à l'exagération, prenez garde à l'exagération, car c'est l'exagération à l'égard des pieux qui a causé la perte de ceux qui vous ont précédés. » L'exagération, elle consiste à dépasser des limites dans l'amour des pieux et de les mettre à une place qui n'est pas la leur, comme en leur demandant une chose que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir, comme le fait de leur demander d'avoir des enfants, ou d'obtenir une subsistance, ou d'être préservé du mal et des épreuves, etc. Seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accorder ces choses-là, mais eux invoquent les pieux et pensent que c'est une manière de les aimer et de les honorer et de reconnaître leurs droits, alors que ceci est du shirk, de l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci les fait sortir de la religion de l'islam. Les gens pieux, qu'ils soient morts ou vivants, ce sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est obligatoire pour le croyant d'aimer les alliés d'Allah. Cependant, il est interdit d'exagérer à leur égard en leur attribuant des choses que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable d'accomplir. Ainsi, celui qui exagère à leur égard, il suit la voie des polythéistes, les gens de l'association majeure, qui sortent de l'islam et demeureront éternellement en enfer, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de cela. Quant aux gens de l'islam, les gens de la sunna, ils donnent aux pieux leur juste valeur. Ils les aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala et ne leur accordent rien faisant partie des droits réservés à Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils mettent en garde les gens contre l'exagération, les gens les accusent de déprécier les pieux et de négliger leurs droits car ils sont trompés par le diable. Et on tire de cela comme bénéfice que ce qui est pris en compte est la réalité des choses et non leur appellation. Même si l'association est commise sous couvert d'amour des gens pieux, ceci ne change rien à sa réalité. Cela reste de l'association, cela reste du shirk qui fait sortir de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le musulman, il ne doit pas s'arrêter seulement sur les appellations, mais il doit observer la réalité de ces choses, et ce afin de les connaître et de connaître réellement leur jugement. On a donc terminé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala le premier fondement qui était la sincérité ou le culte exclusif voué à Allah subhanahu wa ta'ala qui est un fondement d'une importance immense et qu'il ne convient pas de négliger. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me placer ainsi que vous parmi ses serviteurs sincères et de nous préserver de l'association, qu'elle soit majeure ou mineure. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. وجزاكم الله خيرا